toute cette semaine, Xavier Delaporte rencontre Christophe André. Ce soir, mes patients et moi.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes psychiatre, que vous avez écrit de nombreux livres depuis à peu près 25 ans concernant la méditation, l'estime de soi, le bonheur, la sagesse. On va parler de vos patients ce soir. Vous en avez parlé plusieurs fois, ceux que vous avez croisés à Toulouse, ceux que vous avez croisés à Sainte-Anne, ceux aussi peut-être auxquels vous vous adressez dans vos livres qui sont pas vraiment des patients. Mais on va voir comment vous les dénommez. Est-ce qu'il faut aimer ses patients?
Oui. Ah, je crois, oui. Enfin, en tout cas, tout dépend de comment vous voyez votre métier. Moi, une fois de plus, je vois mon métier de psychiatre avant tout comme un métier de soignant. Et donc, je pense que pour soigner les gens, c'est beaucoup mieux de les aimer. Alors, ça n'est peut-être pas indispensable. Peut-être que quand on est chirurgien ou dentiste, on peut se dispenser d'aimer ses patients. Mais pas en psychiatrie, parce que la psychiatrie, c'est quand même un compagnonnage assez souvent. Vous savez, c'est très rare les maladies psychiatriques qu'on va guérir en quelques consultations. Les gens viennent nous voir avec des vies cabossées. Il va falloir qu'on fasse un bout de chemin, en général relativement long avec eux, même si moi je fais partie d'une école de thérapie qui n'encourage pas forcément à garder les gens 10 ans en traitement, mais c'est quand même assez souvent 1 an, 2 ans. Et assez souvent aussi, nous continuons de prendre des nouvelles, de voir les gens une fois ou deux par an. Donc, quand on est dans ce type de cheminement commun, je crois que c'est très compliqué de ne pas aimer les gens, de ne pas avoir d'affection pour eux. Et c'est très compliqué aussi pour les patients s'ils ne sentent pas que ce truc-là existe chez leur thérapeute. En tout cas, moi je ne veux pas généraliser pour mes confrères, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Mais du coup, c'est accepter de voir souffrir des gens qu'on aime, c'est pas simple?
Ben non, c'est pas simple, mais la vie est comme ça. Il y a, même dans ma vie, en dehors de mon métier de psychiatre, je vois parfois souffrir des gens que j'aime, des proches, des amis, et je fais de mon mieux pour les aider. Et c'est la même chose avec mes patients. Donc peut-être que si votre question a à voir avec le problème de l'empathie et de la compassion, je pense que justement, l'amour est nécessaire. Vous savez, on fait une différence entre empathie et compassion qui est basée sur l'amour. L'empathie, c'est lorsque vous ressentez la souffrance de l'autre personne, et l'empathie peut provoquer de la souffrance chez vous. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, ça vous fait souffrir. Et c'est ce qui explique que il y a des formes d'empathie désagréables, pénibles, on cherche à éviter, à pas trop se laisser aller à cette forme de déco émotionnel en nous de ce que l'autre est en train de vivre. Mais après, il y a ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, c'est-à-dire de ressentir cette souffrance, mais accompagné d'un élan de bienveillance, d'affection, d'amour, d'envie de lui faire du bien. Finalement, ça n'est pas un problème, entre guillemets, de voir quelqu'un souffrir en tant que soignant. Si vous l'aimez, en tout cas, c'est moins un problème que si vous ne l'aimez pas. Je pense que c'est intolérable.
Il y a bien des patients qui vous agacent, que vous ne comprenez pas du tout.
Bien sûr. Ah oui. Ah oui, et ça m'est très très dur de les soigner.
Ah oui. Donc il y a des patients que vous
arrêtez
de soigner.
Des patients à qui j'explique que ne suis pas. Ah bien sûr. Par exemple, je n'ai jamais pu correctement soigner des patients toxicomanes et alcooliques.
Pourquoi ça?
Parce que mon père était alcoolique. Ah oui, c'est impossible pour moi. Alors bon,
ça pourrait être quelque chose de soigner quelqu'un qui a la pathologie de son père.
Ça pourrait être une quête, ça pourrait être une compensation, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est pas goupillé comme ça, et donc c'est une souffrance terrible parce que ça réveille tout un tas de chaînes, de sentiers, parce que je me sens impuissant. Quand vous êtes petit garçon, votre papa boit parce qu'il travaille trop, parce qu'il est malheureux, etc. Vous êtes assez impuissant à l'aider, et je crois que ce truc-là se réveillait quand j'avais à soigner ce type de patient. Et donc très vite, j'ai compris que je ne serais pas très bon, ou alors que ça allait être un chantier considérable pour nettoyer ça dans ma tête. Et à tout prendre, je me suis dit que c'était plus honnête de me dire que je pouvais me tourner vers des personnes que j'étais plus à même d'aider.
Et vous ne trouvez pas que c'est une résignation ?
Si, mais alors vous savez, sur ce truc-là, ça a cessé de me tourmenter. Le fait qu'il y ait des tas de renoncements nécessaires dans nos vies, des tas de choses que nous ne pourrons pas faire, des tas de gens que nous ne pourrons pas rencontrer, de pays que nous ne pourrons pas visiter, de livres que nous ne pourrons pas lire, de personnes avec qui nous ne pourrons pas devenir amis. Vraiment, nous n'arrêtons pas d'avoir à affronter ces renoncements et renoncer à soigner certains patients. Bien sûr que c'est une dérobade, une résignation, tout ce que vous voudrez, mais c'en est une parmi des milliers. Et donc, je me concentre plutôt sur ce qu'il me semble faire plus efficacement, avec plus de joie, avec plus d'amour, plus de bonheur. Et jusqu'à présent, je m'en tiens à ces choix. Il me semble que ce sont les bons.
Justement, Christophe André, quelles sont les pathologies qui vous émeuvent particulièrement et que du coup vous aimez soigner parce que des gens vous émeuvent ?
Eh bien, ce sont les troubles émotionnels. Ouais, c'est vrai qu'il y a des pathologies qui me donnent ce sentiment d'impuissance, on vient d'en parler. Il y en a qui me fascinent, mais qui m'impressionnent trop, l'anorexie mentale. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que pendant longtemps, j'ai soigné des patients qui souffraient de schizophrénie et que eux m'émouvaient beaucoup et que j'avais beaucoup de plaisir à les soigner, si j'ose dire. J'ai pas de plaisir à les voir souffrir, mais... Et j'ai arrêté pourtant, mais une fois de plus, parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand je suis arrivé dans ce service universitaire à Sainte-Anne, quand vous êtes dans un service universitaire, vous ne faites plus de psychiatrie généraliste. Vous allez dans un service universitaire de cardiologie, vous avez monsieur infarctus, madame hypertension, mademoiselle trouble du rythme, etc. Et donc, il s'est trouvé qu'à Sainte-Anne, j'ai choisi de me surspécialiser dans les troubles émotionnels. Mais c'est vrai que les patients souffrant de schizophrénie me touchent beaucoup. J'ai quelques patients encore que je continue de voir qui ont ce type de souffrance. Mais quand même, c'est vrai que ce qui me passionne et nourrit mon travail, ce sont ce qu'on appelle les troubles émotionnels, les troubles liés au stress, à l'anxiété, à la dépression, les émotions dérégulées qui font souffrir au lieu d'aider et d'éclairer.
Pourquoi c'est ça qui vous émeut et touche le plus ?
Alors, sans doute aussi parce que c'est de ces troubles-là, de ces souffrances-là que je suis affublé, que j'aurais pu tomber malade d'ailleurs personnellement. Il y a aussi le fait que, en tout cas pour les troubles anxieux, ça a longtemps été des troubles orphelins, où il y avait tout un retard à combler, tout un territoire un peu laissé en friche. Les anxieux, finalement, ils ne dérangent pas grand monde avec leur anxiété. Si vous avez des collaborateurs anxieux au boulot, ils font très bien leur travail, ils sont impeccables. Alors juste, ils se ravagent la vie, ils ne dorment pas, ils rendent leur famille dingue parce qu'ils se mettent leur râteau courbouillon en permanence, tout le week-end, toutes les vacances. Mais ils ne font pas tellement de bruit. Et donc, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis intéressé aux troubles anxieux et dépressifs.
Est-ce que les patients sont si différents que ça les uns des autres ? Quand on a vu défiler dans son bureau des dizaines, des centaines de gens, est-ce qu'on se dit « Ah là là, est-ce que l'humanité est singulière ? Est-ce que les gens sont différents les uns des autres ?» Ou au contraire, est-ce qu'au bout d'un moment, on réunit des grandes catégories qu'on identifie assez vite ?
Il y a les deux mouvements, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est vraiment des histoires très singulière, chaque patient a son rythme particulier, de commencer par vous raconter tel ou tel point de sa vie. Puis au bout d'un moment, dans un second temps, mais c'est notre travail diagnostique et thérapeutique qui se met en place, on arrive à le relier à tout un tas d'autres patients et à voir à quel point ils ressemblent aux autres. Et d'ailleurs, ce moment est très bluffant pour le patient, parce qu'au bout d'un moment, vous commencez à lui poser des questions de plus en plus précises. Et là, tout à coup, il se met à vous regarder, à vous dire, mais comment vous savez ça, quoi ? C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, ouais, la première attaque de panique que vous avez eue, à mon avis, vous devez vous souvenir exactement du jour, de l'heure et du lieu où vous l'avez eue, n'est-ce pas ? Évidemment, on le sait parce qu'on a vu des centaines de patients paniqueurs et on sait que la première attaque de panique, c'est le plus grand traumatisme existentiel. Et donc, ils savent que c'était le 13 avril 1992, au supermarché du coin, à 15h32, ils venaient de prendre une botte de poireaux et tout à coup, ils ont senti que leur cœur lâchait. Bon, voilà. Donc, dans ce second temps, on est capable de voir exactement à quel point leurs symptômes ressemblent à ceux de tout un tas d'autres patients. Et puis après, de nouveau, quand on s'engage dans la thérapie, là, on voit que chaque patient a sa manière bien à lui d'avancer, de freiner, de stagner, de faire des détours. Mmh. Donc, on oscille sans arrêt entre ce très universel, finalement, de la condition humaine, notamment lorsqu'on souffre de telle ou telle maladie, et puis ce très singulier, très particulier. Donc, c'est un mélange assez indicible des deux.
Et je me posais la question de savoir, est-ce que des traits socio-économiques, par exemple, jouent, pour le dire un peu vulgairement, est-ce que les pauvres se ressemblent dans la maladie, ou les riches se ressemblent? Je le dis un peu grossièrement, ouais, mais vous voyez ce que je veux dire.
Non, j'ai pas ce sentiment.
Ou alors, par exemple, alors si ça joue pas, est-ce que par exemple, je sais pas, des critères culturels, voilà, vous êtes à Paris, vous soignez des patients sans doute qui viennent de partout.
Ouais.
Est-ce que là, vous pouvez, je sais pas, faire des grandes distinctions ou des petites, je sais pas.
Non, c'est curieux, hein, je suis un peu dans la difficulté pour vous répondre parce qu'il me semble que je ne me suis jamais poser la question comme ça, et ce que j'ai tendance à me dire, c'est que si je ne me suis jamais posé la question, c'est qu'il n'y avait pas lieu de se la poser. Mais là, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être pas le recul, mais au fond, ce que je veux dire, c'est que évidemment, les patients qui viennent nous voir se mettent à nu, quoi, nous révèlent quand ça se passe bien, parfois, ils n'y arrivent pas, mais le plus profond de leurs angoisses, de leurs doutes, de leurs souffrances. Et là, très sincèrement, c'est comme pour notre corps. Vous mettez un pauvre et un riche à poil, ils se ressemblent beaucoup, encore que c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on sait qu'en médecine, malheureusement, le corps des pauvres est beaucoup plus abîmé, mais
c'est quand même le même corps.
C'est quand même le même corps, c'est quand même les mêmes maladies, même si elles sont plus fréquentes chez les pauvres, on peut aussi les voir chez les riches, etc.
Non, mais c'est intéressant que vous disiez ça après des dizaines d'années de pratique.
Ouais, mais il faut se méfier de moi parce que j'ai une espèce d'aversion aussi pour les catégorisations sociales. Faut pas oublier, moi je viens d'une famille pauvre, j'ai toujours été extrêmement réactif, quoi, aux inégalités sociales. Je déteste par exemple les gens qui mettent en avant leurs particules, les écoles dont ils sont issus, ils sont issus des beaux quartiers et tout ça. Donc, je me demande si j'ai pas une certaine cécité à la provenance sociale, si dans une espèce de désir d'égalitarisme républicain absolu, il n'y a pas une zone aveugle dans ma manière de regarder les patients qui fait que je m'en fous, quoi qu'ils soient OS au chômage, ou PDG, ou star de la chanson, ou star de la politique, ou j'en sais rien. Et peut-être que ça m'a rendu aveugle à certaines différences. Honnêtement, là, vous me questionnez sur un point que je n'ai pas exploré assez attentivement.
Et c'est quoi un patient dur à soigner? Qu'est-ce qui est l'obstacle le plus compliqué pour soigner quelqu'un?
Dans mon cas, avec le type de traitement que j'utilise, qui nécessite beaucoup d'engagement de la part du patient, qui nécessite qu'il travaille de son côté régulièrement, qu'il fasse des exercices en quelque sorte, le grand obstacle, c'est le non-engagement du patient. C'est le fait qu'il ait du mal à faire ce que je lui demande, ou qu'il soit tellement convaincu que c'est inutile, qu'il ne le fait pas, qu'il soit tellement usé par sa maladie qu'il est infoutu de le faire en réalité, même s'il en a envie, mais après toute une vie d'échecs, de fuites, d'évitements, de démissions, je n'arrive pas à trouver le bon ressort pour qu'il se remue. Vous savez, l'essentiel de ce qui se passe en thérapie, ça se passe en dehors du cabinet du thérapeute. C'est quand le patient rentre chez lui. Est-ce qu'il continue de réfléchir à ce que vous avez dit? Est-ce qu'il se met tout à coup à regarder ses comportements, ses habitudes, ses manières de penser, en se souvenant de ce que vous lui avez dit, en se disant « bon sang, mais oui, mais non, mais je peux pas continuer comme ça, je dois faire tel effort, je dois changer ». Si, pour une raison ou pour une autre, cette intériorisation de votre parole, de vos conseils ne se produit pas de façon assez forte, assez régulière, la thérapie ne marche pas.
Est-ce qu'il y a des échecs thérapeutiques auxquels vous repensez régulièrement dans votre carrière ?
Oui, bien sûr. C'est, malheureusement, notre mémoire est ainsi faite qu'on se souvient beaucoup plus facilement de ce qui est douloureux. Et pour les psychiatres, ce qui est douloureux, ce sont les suicides. J'ai quelques souvenirs, j'en ai pas beaucoup, fort heureusement, mais de patients qui se sont suicidés, extrêmement douloureux, évidemment pour eux, pour leur famille. Enfin, j'ai deux souvenirs
qui se ressemblent ? Deux cas
non,
qui se ressemblent ?
Très différents, non. Le premier souvenir, c'était une jeune fille qui était venue pour un problème de phobie sociale, justement, qui n'arrivait pas à regarder dans les yeux, qui venait d'arriver de province à Paris, qui était étudiante et qui souffrait énormément. Et c'était un peu avant des vacances scolaires et j'avais peur déjà qu'elle se suicide. Elle m'inquiétait, elle était très isolée, elle ne voulait pas être hospitalisée, enfin bref. Et donc j'avais donné des antidépresseurs, j'avais donné du Prozac à l'époque. Et malheureusement, elle s'était suicidée avec la boîte que je lui avais prescrite. Et peut-être que j'avais commis une erreur en lui prescrivant après ne l'avoir vue que deux fois. Et donc ses parents m'ont appelé pour m'annoncer ça et en me disant qu'ils voulaient me voir. Donc bien sûr, je les ai reçus, c'était la moindre des choses. Et donc ils étaient en colère contre moi finalement, que je ne l'ai pas forcé à être hospitalisé. Et je leur ai dit qu'ils avaient raison, que j'avais sans doute commis une erreur d'évaluation. Enfin voilà, j'ai reconnu ma faute. Je pense que... Je ne suis pas tout à fait sûr, je ne sais pas ce que j'aurais, enfin, si c'était vraiment une faute ou pas. Enfin, rétrospectivement, c'en était une, puisqu'après on a eu ces études qui ont montré que certains de ces antidépresseurs pouvaient faciliter des passages à l'acte suicidaire chez certains patients dans certaines conditions. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore ces études. Mais bref, j'ai reconnu que c'était, j'aurais peut-être pu faire autrement. Et bon, ce qui les a... Je ne sais pas si ça les a apaisés, mais voilà, quoi... Ils en sont restés là et c'est curieux que je me souviens extrêmement bien quoi, de cet épisode. Et l'autre suicide dont je me souviens, c'est une histoire encore plus triste. C'est une patiente que je n'ai jamais vue, qui m'a écrit il y a une dizaine d'années à Sainte-Anne parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de rendez-vous. Je n'arrivais pas à recevoir les patients assez rapidement. Elle m'écrit une lettre en me disant... Il n'y a que vous qui pouvez me sauver, ça c'est le problème que vous avez quand vous écrivez des bouquins. Du coup, les patients vous idéalisent, ils pensent que vous êtes meilleur que les autres pour soigner. Alors vous êtes juste meilleur pour écrire à la rigueur, mais encore. Et donc, il faut que je vous voie, il faut que je vous voie. J'ai vu plein de psys qui ne m'ont pas aidé. Donc, je lui ai dit, écoutez, ouais, mais non, moi je ne veux vraiment pas vous recevoir rapidement. Ça, j'ai une place dans 3 mois et demi. C'est, moi, je garde les patients 1 heure à chaque fois, donc... Au bout d'un moment, quand j'en ai 8 dans la journée, c'est fini, quoi. Je ne peux pas en rajouter en 5 minutes. Et donc, je n'ai pas de réponse. Et puis, voilà, 3 mois après, la maman m'écrit une lettre en me disant « Ma fille s'est suicidée. » Et j'ai retrouvé à son chevet votre réponse à sa lettre qui disait que vous ne pouviez pas la recevoir avant 3 mois. Et je voulais juste vous en parler. Donc, pareil, mais j'ai reçu la maman, donc... Je lui ai fait mes excuses, enfin c'était... Donc toutes ces histoires sont... Je crois que dès que vous soignez, vous vous exposez à la joie de guérir, il n'y a rien de plus beau quoi, professionnellement que d'avoir un patient qui vous dit « Vous m'avez vraiment fait un bien fou, je pense que vous m'avez sauvé la vie, merci docteur, voilà, c'est au nirvana. » Mais il n'y a rien de plus terrible aussi que d'être confronté à l'échec d'une personne qui vous a fait confiance, qui a remis sa vie entre vos mains, puis vous vous êtes planté et elle s'est suicidée, puisque la psychiatrie, il n'y a pas de maladie mortelle en psychiatrie, à part par le geste suicidaire.
Christophe André, pourquoi vous êtes mis à écrire des livres ? Est-ce que c'est pour étendre justement la possibilité de ces personnes qui vous remercient de les avoir guéris ?
Ça s'est fait naturellement, l'histoire des livres. C'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée à l'époque. Simplement, ce qu'il faut comprendre, une fois de plus, c'est que ma façon de soigner, c'est une façon pédagogique. On fait beaucoup de ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est-à-dire on donne beaucoup d'explications aux patients. Voilà les mécanismes de votre maladie. Voilà les efforts que vous avez à faire. Je vous prescris des petits exercices. Lundi, vous ferez ça. Vous allez me tenir un petit cahier journalier. Je voudrais que vous m'écriviez vos pensées, vos émotions, ce qui vous est passé par la tête. Enfin bref. Donc c'est très pédagogique. Et donc peu à peu, je donnais de plus en plus souvent des petites fiches photocopiées à mes patients, des fiches de conseils, des fiches d'explication, des fiches où je leur demandais de relever leurs pensées, etc. Puis au bout d'un moment, c'est devenu des espèces de mini polycopiés. Puis après, au bout d'un moment, j'avais 100, 150 pages et du coup, ben, ça faisait pratiquement un livre. Et le jour où un éditeur m'a proposé de faire un bouquin, une fois de plus, c'est grâce à mon ami Patrick Légeron, qui était un peu plus avancé que moi dans la carrière, qui m'a associé à l'aventure. Il avait envie qu'on écrive un livre sur ce que nous faisions à Sainte-Anne, le traitement que nous proposions aux patients qui souffraient de timidité maladive et de phobie sociale. Eh bien, ça s'est fait naturellement. On a pris nos notes, nos photocopies, la remise aux patients, on a rédigé, et ça fait un livre qui s'appelle « La peur des autres ».
Ça fait un succès.
Ouais. Ça, c'est drôle, cette histoire. Donc, moi, on a fait le bouquin, et puis on a laissé tomber, quoi. On est revenu soigner, enfin, on ne s'est pas occupé, pratiquement pas eu de promo. Et puis, deux ou trois semaines après, Odile Jacob nous appelle, nous dit « Vous savez que votre livre est un succès, vous allez être invité à telle ou telle émission. Enfin, » et là, on est tombé du ciel, on a débarqué sur une autre planète. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de finalité autre que se dire « C'est cool, parce que là, maintenant, non seulement nos patients auront les conseils, mais même des gens qu'on ne verra jamais, qui habitent très très loin. » Et voilà, c'est parti comme ça, avec cette espèce de coup de chance, qui n'en était pas un, puisqu'au fond, c'était le premier bouquin qui parlait de cette pathologie, de cette souffrance, la phobie sociale, de manière un petit peu carrée, en lui donnant toute la place qu'elle méritait, en s'adossant à des études scientifiques. Bon, donc, la chance, c'est d'avoir été ceux qui l'avaient écrit.
Oui, ça aurait été de la chance si ça avait été une seule fois. Or, quasiment tous vos livres ont connu des grands succès, dernièrement... 400 000 exemplaires pour Trois amis en quête de sagesse, 500 000 exemplaires pour Méditer jour après jour, à France Culture 1 million de téléchargements pour l'émission que vous avez faite l'été 2016. Qu'est-ce que ça dit selon vous, le succès de tous ces livres ?
Ça dit qu'il y a beaucoup de souffrance dans le cœur des humains. Ça dit que nous cherchons tous à alléger cette souffrance, à aller vers davantage de bonheur. Ça dit que nous avons goût, nous avons besoin d'une parole simple, quoi, qui soit une parole amicale, avec des conseils simples, quelque chose qui soit dépouillé, qui aille à l'essentiel. Et ça dit que moi j'ai plaisir à écrire des choses simples qui puissent aider les autres. Quoi. Je ne sais pas quoi vous répondre.
Mais non, parce que vous utilisez beaucoup cet adjectif simple depuis le début de ces émissions. Vous l'avez utilisé quand vous avez parlé de la psychothérapie contre la psychanalyse. Enfin contre. Oui, un peu contre quand même. Vous l'employez là, vous l'employez quand vous décrivez la manière dont vous vous adressez à vos patients. Pourquoi est-ce que vous êtes si soucieux de cette simplicité, alors que c'est tellement compliqué, l'âme humaine?
Ouais, mais justement, je suis soucieux de simplicité parce que je crois que lorsqu'on est perdu, il n'y a que ça qui marche. Bon, vous savez, on a parlé du rugby précédemment. Quand vous êtes entraîneur à la mi-temps dans un vestiaire de rugby, mais je suppose que c'est pareil au foot, les joueurs ont pris des nions toute la mi-temps, ils sont dominés, ils sont en train de perdre le match, et ils n'ont pas beaucoup d'oxygène dans le cerveau pour écouter ce que vous allez dire. Ils sont un peu anxieux, un peu secoués. Et si l'entraîneur ne dit pas des choses très simples, très sincères et très vraies, eh bien, ça vaut mieux qu'il se taise. Mais parfois, il dit des trucs tout simples, tout bêtes. Je veux dire, on les écrirait et on les montrerait aux joueurs après le match, quand ils sont plus fatigués, quand ils ont retrouvé leur oxygénation cérébrale. C'est-à-dire, mais comment ces paroles-là ont pu nous marquer? Mais pourtant, voilà, vous les avez entendues dans le vestiaire, vous sortez et là, hop, vous renversez le cours du match. Et je pense qu'en thérapie, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire, plus nous... Et dans la vie, et dans la vie même, et une fois de plus, je crois, il n'y a aucune barrière entre la vie et la thérapie. Quand on est bousculé par l'existence, par la souffrance, par l'adversité, je pense qu'il n'y a que des paroles simples et sincères qui peuvent avoir un impact sur nous. Et que si on est face à un discours alambiqué, tortueux, trop calculateur, ou pas assez chaleureux, pas assez sincère, on ne va pas être touché par sa voix. Vous savez, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué très tôt dans ma vie de soignant, c'est les patients qu'on revoit quelques années après qui nous disent ben, « Vous savez, vraiment, vous pouvez pas savoir ce que nos entretiens m'ont fait du bien à l'époque. Vous m'avez dit des choses qui m'ont sauvé. » Et quand vous enquêtez discrètement, vous vous dites « Merde, si j'ai dit des trucs qui l'ont sauvé, j'ai oublié, mais ça devait être vachement bien. » Et donc, c'était quoi Et les patients vous disent des trucs très simples. Ouais. Ils vous disent « Ben, un jour, vous m'avez raccompagné jusqu'à la porte du cabinet. Vous m'avez serré la main assez fort. Vous avez mis votre autre main sur nos deux mains. Et vous m'avez dit « Prenez bien soin de vous. » Juste ça. Et ce truc-là, parce que je l'avais dit au bon moment, parce que je crois, je le pensais, parce que ça arrivait après une longue discussion, on avait parlé justement du fait que cette personne se malmenait, n'écoutait pas ses besoins, etc. Sans même m'en rendre compte, je l'avais dit gentiment, mais c'était arrivé pile poil au bon moment, c'était sincère, c'était pas absurde non plus, mais c'était très général, quoi. Voilà. Eh bien, cette parole avait été comme un mantra après pour la personne. Et peu à peu, j'ai pigé qu'il y avait certaines paroles qui s'inscrivaient en nous. Je dis « nous » parce que ça marche de la même façon pour moi. Moi, il y a des paroles de poètes, d'écrivains, des phrases qui agissent sur moi comme des mantras. C'est-à-dire, je me les répète pour me donner du courage, de l'énergie, de la consolation. Et quand j'ai compris que les patients fonctionnaient exactement comme ça, ça a été très important pour moi. Et du coup, dans mes bouquins, j'ai toujours fait attention que cette règle de la clarté, de la sincérité, de la simplicité soit respectée.
Est-ce que vous pouvez, Christophe André, nous donner un mantra issu, je ne sais pas, d'un poème, d'un auteur que vous aimez, juste pour nous faire patienter jusqu'à demain?
Ah oui, il y en a plein. Alors, il y a par exemple cette question lancinante et très féconde de Martin Luther King, c'est « Qu'as-tu fait pour autrui aujourd'hui ?» Tous les jours, vous demandez « Est-ce que j'ai fait quelque chose pour les autres aujourd'hui ?» avant de penser à me plaindre, à gémir, à m'occuper de mes intérêts propres.
Eh bien, on va y penser jusqu'à demain. Au moins, on a passé une journée à se poser la question. Merci beaucoup, Christophe André.
Merci.
C'est la fin du quatrième épisode de cette Voix Nue qui vous est consacré toute cette semaine. Demain, ce sera le dernier, donc on vous retrouvera chez vous encore et on parlera de ce qui entre du monde dans un cabinet ou dans votre bureau. À demain.
À demain.
Demain, la suite de cette rencontre de Xavier Delaporte avec Christophe André. À Voix Nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Asia Khalid, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.